Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu sur un sujet qui, à mon avis, est en continuité avec la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a parlé de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'obéissance. Alors Jérôme nous a dit que l'éducation des enfants, c'était quelque chose qui revenait aux parents. Et comme Dieu est notre Père, eh ben, lui aussi veut nous éduquer, lui aussi il veut nous guider dans notre vie. Et quand il a parlé de ce sujet la semaine dernière, je me suis dit, waouh, le gars il est vachement inspiré, parce que moi j'ai envie de prêcher sur l'obéissance, je ressens vraiment que c'est quelque chose que le Seigneur me met à cœur, parce qu'on vit des choses très fortes dans notre église, et je ne sais pas vous, mais on sent qu'on arrive à quelque chose, on arrive à un moment qui va changer beaucoup de choses. Il y a au moins quelqu'un qui a vu la même chose que moi, c'est génial. Il a cité ce verset dans 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Je vous invite à prier. Seigneur, je te demande vraiment de prendre cet instant pour toi, de parler, de toucher les cœurs. Limite, si je peux me taire et que tu fasses tout le boulot, eh ben, je suis partante. Je veux vraiment que tu changes des vies ce matin, que tu nous apprennes à comprendre tes lois, ta parole, et que vraiment ton Saint-Esprit répare, restaure, touche, et que nous puissions avancer avec toi, grandir avec toi, Seigneur. Parce que tu veux que ton Église soit forte, qu'elle fasse la différence dans ce monde. Et nous voulons tout simplement obéir à ta voix. Amen. Obéir, c'est quoi ? Obéir, c'est en fait un cadre de sécurité, c'est un garde-fou. Quand Dieu nous dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices », ça veut dire qu'il préfère que notre volonté personnelle s'attache à la sienne plutôt que nous apportions des biens ou que nous sacrifions des choses qui ne l'intéressent pas ou qui n'ont pas de valeur pour lui. Et ça aide, quand on a des décisions à prendre, de se dire, en fait, si j'obéis, c'est mieux que si je sacrifie. Et parfois, l'obéissance est un sacrifice en soi. Et quand on se pose pour décider qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie, ce verset peut nous aider parce que Dieu préfère que nous avancions dans son chemin, que nous prenions des chemins qu'il ne nous présente pas, qu'il ne nous propose pas et qu'ensuite il y ait des conséquences. Quand Dieu nous demande de respecter sa voix, c'est pas parce que justement c'est un Dieu dictateur, mais c'est un Dieu qui veut nous protéger, comme un père qui veut protéger ses enfants. Et l'exemple de Jésus à la croix est le bon exemple. En fait, Jésus, il a obéi, il est allé jusqu'au sacrifice. Et dans Matthieu 5, verset 20, il est écrit « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Parce qu'on peut soi-même s'imposer des lois, avoir une façon d'agir, une façon de réagir dans notre vie. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas la loi de Dieu, et ben c'est vain en fait. Vous connaissez ce passage. À la suite, il y a si on te frappe sur une joue, tend l'autre joue, si on prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Ça, c'est la logique de Dieu. La logique de Dieu, ce n'est pas de se faire soi-même justice, mais c'est de laisser Dieu nous faire justice et c'est de répondre par la grâce à ce que nos contemporains ou à nos frères et sœurs nous font en fait. À chaque fois, il faut se dire, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Dieu s'attache à notre choix, à la qualité de notre cœur. Toutes les actions que nous allons faire, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais comment on le fait, par quel état de cœur on le fait. Il s'intéresse à l'être plutôt que le faire. Et dans le verset de 1 Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au final, c'est comme si Dieu dit « Obéis-moi parce que le reste, c'est pas important ». Alors on pourrait définir l'obéissance comme un sacrifice de nos biens, de notre temps, de notre personne. Mais l'obéissance, avant tout, c'est un choix. Des fois, on a envie de faire des choses pour Dieu, mais Dieu nous dit, mais ça là, que je t'ai demandé, qu'est-ce que t'attends pour obéir ? Dans Ésaïe 18, verset 29, il est écrit, « Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. » Pourquoi faut-il obéir à Dieu ? Tout simplement parce qu'il est un bon conseiller. Dans Jean 15, verset 5, il est écrit, « Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, c'est pas rien faire. Bien sûr, on peut faire des choses sans Dieu, mais rien faire d'efficace, en fait. Et dans le Notre Père, dans la prière que tout le monde connaît par cœur, Matthieu 6, verset 10, on dit bien que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Et il y a la version Darby que j'aime bien qui dit « Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre, comme dans le ciel. » C'est comme si que, quand on prononçait ces mots, on disait « Que je rentre dans ton royaume, que j'accomplisse ta volonté, comme tu l'as écrit dans ton ciel, que j'obéisse sur la terre. » Mais ne voyez pas l'obéissance comme une succession d'actions que Dieu nous impose, mais comme vraiment un cadre de sécurité. On peut dire que cette pièce, c'est le cadre de sécurité de Dieu. Ici, il y a de l'air, on est bien installé, etc. Ce sont ses lois. Les murs, c'est les lois de Dieu qui nous protègent du dehors. Et bien sûr, on peut sortir, il n'y a rien d'interdit, on peut sortir. Mais quand on va sortir des lois de Dieu, ben, il y aura des conséquences. Il y aura des choix qui vont être négatifs pour nous parce que le cadre de notre vie, comme Dieu l'a défini, il est là. Donc je vais faire respirer certains. Ne pensez pas que obéir à Dieu, c'est avoir un fardeau comme dans l'Ancien Testament où on ne devait pas faire ci, on devait faire ça, on ne devait pas faire ci, on devait faire ça. Dans Matthieu 11, verset 30, il dit « Je ne cherche pas à vous dominer ». Alors, c'est une version parole vivante. « Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. » C'est la traduction parole vivante de « Mon fardeau est léger, mon joug guidou. » Il y a un exemple qu'un pasteur avait donné. Il disait que, justement, dans cette salle où on est en sécurité, si vous voulez aller contre la volonté de Dieu, ben, vous frottez votre tête contre les murs ou vous tapez votre tête contre les murs. Et en fait, ça nous fait du mal. Donc, quand Dieu fait un cadre pour notre vie, un chemin pour notre vie, un projet pour notre vie, il est bon pour nous de rester bien dans ce chemin-là. Parce que sinon, on va se faire du mal. Maintenant, pourquoi on écoute Dieu ? Ben, tout simplement parce qu'il est divin conseiller, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, vu ses qualifications, il sait tout, il est partout et il peut tout. Alors, je ne sais pas si le titre va apparaître, mais j'ai fait un jeu de mots, ça m'arrive. Dieu conseiller et conseiller dans l'œuvre de l'Église. Souvent, on tourne en rond pendant des années, pendant des heures, pendant des jours, parce qu'en fait, on n'écoute pas la voix de Dieu. Je voudrais qu'on prenne deux passages. Un passage dans Genèse 3, verset 17, et un passage dans Ésaïe 18, verset 23. Je vais vous les lire, c'est un peu des passages longs. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc ça, c'est tout de suite après la désobéissance d'Adam. Dieu maudit la terre et lui dit qu'il va avoir un dur labeur pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir cultiver la terre. Et dans Ésaïe 18, verset 23... Ah, il n'y a pas de 23 ? Ésaïe 18, verset 23 ? Il n'y a pas. Bon, bah désolée, je me suis trompée dans la référence. Pourtant, j'aime trop ce passage en plus. Mais vous allez écouter là. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Le laboureur laboure-t-il tout le jour pour semer? Ouvre-t-il et herse-t-il tout le jour son terrain? N'est-ce pas que lorsqu'il en a aplani la surface, il répand la nette et sème le cumin et met le froment par rangée et l'orge au lieu désigné et l'épeautre dans ses limites? Son Dieu le dirige dans son jugement, il l'instruit, car il ne foule pas la nette avec un traîneau à tranchant et ne fait pas tourner la roue du chariot sur le cumin. Car on bat la nette avec un bâton et le cumin avec une verge. Il broie le blé pour le pain parce qu'il ne veut pas le battre toujours. Il ne broie pas en chassant par-dessus la roue de son chariot et ses chevaux. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Alors là, je vous ai tous perdus. Ok, Ésaïe 28. Donc, pourquoi j'ai pris ces deux passages? Parce que d'un côté, on voit que Dieu donne une mission à l'homme. Il lui dit, ben voilà, tu vas travailler dans les champs et tu vas rechercher à faire pousser les cultures et ça va être un travail dur. Tu vas gagner à faire pousser des légumes, des fruits à la sueur de ton front. Et dans Ésaïe, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, Dieu s'est intéressé à l'homme, au paysan, et lui a enseigné comment semer. Il l'a enseigné comment retourner son terrain. Il l'a enseigné, selon la culture qu'il veut faire pousser, comment la faire pousser. Et ça, c'est pour vous montrer que dans la loi de Dieu, eh ben, Dieu, il est grâce. Il fait grâce à l'homme et lui dit, ok, la terre, elle est maudite, mais moi, je sais comment faire sortir les cultures du sol. Donc, je vais venir vers toi et je vais te conseiller, je vais te montrer comment faire. Et je trouve ce passage merveilleux parce que toutes les cultures sont différentes et Dieu a donné de la sagesse à l'homme, il l'a conseillé pour qu'il sache que ben il y a certaines choses qui poussent dans l'eau, il y a certaines choses qui poussent dans la terre, il y a d'autres choses c'est des arbres, il y a d'autres choses c'est voilà. Et ce passage est fort parce que c'est comme si que Dieu dit OK, je sais que tu as cette mission qui est difficile, mais si tu m'écoutes, eh ben regarde ce qu'on peut faire ensemble. Et Dieu veut un partenariat avec nous. Dieu veut travailler avec nous. Quand il met des règles et des limites, c'est pour nous protéger. Et quand il dit qu'il veut accomplir des choses dans nos vies, c'est avec lui. C'est pas juste on a une feuille d'ordre et voilà, on suit le chemin. Non, il veut être, entre parenthèses, dans la galère avec nous. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Et nous sommes dans le champ du Seigneur pour la moisson. Il nous enseigne encore comment faire notre travail pour que notre travail ne soit pas vain, pour que notre travail ne soit pas fatigant, mais qu'on puisse avoir du résultat. Il est conseillé dans nos vies de tous les jours. Il est conseillé aussi pour nous aider à parler à nos contemporains, à apporter l'évangile. Certains vont répondre à un tract. On va leur donner un tract et ils vont lire, voilà, Église évangélique ou Jésus t'aime. Ils vont être touchés. Et d'autres, ils ne savent pas lire. Il y en a, ils vont être touchés parce qu'on va leur donner à manger. Puis il y en a, ils vont être touchés parce qu'on va leur donner des vêtements. Et puis il y en a, ils vont être juste touchés parce qu'on va les regarder avec un regard d'amour. Et tout ça, c'est le Seigneur qui doit nous l'enseigner. Parce qu'on est tellement maladroit, parce qu'on ne sait tellement pas ce qui se passe dans leur vie, dans leur cœur. On ne connaît même pas leurs besoins. Et ça, c'est le Seigneur qui va nous l'enseigner. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car Dieu a écrit d'avance, et si nous voulons hâter son retour, l'obéissance est la seule stratégie. Moi, franchement, je suis désarmée quand je vois les besoins de notre société. Des fois, je me dis, oui, prions, 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 mais qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Et je me dis, ben, Dieu, il doit avoir la recette, et il faut s'en remettre à lui. Je me rappelle, une fois, on a fait de l'évangélisation, et on va dans la rue, voilà, on distribue, on donne, on parle, on témoigne. Fin de journée, il me reste une Bible. Et je me dis, alors là, je rentre pas avec une Bible. Je rentre pas avec une Bible. Limite, je fais des heures sup, mais je rentre pas avec une Bible. On passe dans la rue, on était dans le 20e, et puis on tombe devant un clochard qui est là, avec son banc, avec tout l'attirail du clochard, toute la panoplie du clochard. Et je me dis, bah, c'est lui. Alors je commence à faire ma petite chrétienne. Oui, Jésus t'aime, blablabla, blablabla, je te donne une Bible, tu vois, le Seigneur, il pense à toi, c'est la dernière Bible de la journée, je tombe sur toi, il t'a choisi, etc. Blablabla, le gars, il reste stoïque, il me regarde, et aucune réaction. Et je continue mon truc de chrétienne. Oui, voilà, si t'as faim, dans notre église, on donne à manger, il faut que tu viennes, je te mets l'adresse, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je touche ce gars. Je mets ma main sur son genou. Je me rapproche de lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Je ne sais plus si j'ai prié, chanté, je ne sais plus. Mais ce gars-là, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Je ne savais plus quoi faire. Et voilà, je me dis, purée, j'aurais pu parler encore un quart d'heure, une heure, le gars n'aurait rien fait. Mais le fait que je l'ai touché, son cœur l'a été aussi. Et là, je me dis, waouh, mais si j'avais été à l'écoute de Jésus, eh ben, j'aurais été beaucoup plus efficace. Parce que des fois, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte notre vie. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la morale. Ils ont juste besoin qu'ils soient touchés comme Dieu sait les toucher. Nous, on le sait, hein. Des fois, on dit, ouais, de toute façon, la prédication, rien. Moi, j'attends de Dieu ça. Et bien, eux, ils sont pareils. Ils attendent de Dieu ça. Et nous sommes les mains, les bras, la voix, les yeux, les oreilles de Dieu. Et nous sommes là dans cette société pour faire la différence. Il y a un verset qui, dans la Bible, qui me choque. C'est quand Jésus s'adresse à ce gars-là, ce petit jeune, enfin je sais pas s'il était jeune, mais il lui dit « Suis-moi » dans Matthieu 8, verset 21. Et le Seigneur lui répond « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » Lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » Je dis « Wow, Jésus quand même, tu y allais fort là, c'est pas gentil. » Mais en fait, c'est comme si Jésus lui dit « Mais en fait, tu dis que tu m'aimes, mais aime-moi dans tes actes. Suis-moi. Viens, on a des choses à faire ensemble. » Et Jacques nous le dit dans Jacques 2, verset 17. « Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être « Tu as la foi, moi j'ai les actes. » Je répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. » Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Et dans 1 Jean 3, verset 18, il est dit « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes et en vérité. » Donc, on doit être une église active. Pas active parce qu'on fait plein d'activités, mais active parce qu'au boulot, on parle de Dieu. Chez nous, on prie, on pense à nos voisins. Notre famille, elle est touchée parce qu'on a un bon témoignage. Nos contemporains, des consorts, voilà. On n'a pas peur de faire peut-être, je sais pas, 100 mètres de plus pour prendre les courses de la voisine et avoir un bon témoignage. On va dépanner le voisin qui a besoin de monter ses meubles. On va être Jésus dans ses rues, dans ses maisons, dans ses villes. J'ai fait la blague cette semaine à quelqu'un, je lui ai dit... La personne, elle me dit qu'elle m'aime bien. Je lui ai dit, ah bah, si tu m'aimes bien, est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Et oui, oui, t'inquiète, je le fais. Et puis la journée passe, et puis il ne l'a pas fait. Et je lui dis, bah tu vois, tu ne m'aimes pas. Non, je sais qu'elle m'aime bien. Mais c'est un peu ça. Des fois, on dit, Seigneur, voilà, ma liste, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et Jésus dit, attends, moi j'ai besoin de ça. Et on dit, ouais, mais tu vois, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Vous savez que Jésus n'est pas sourd. Une fois qu'on a prié, il le sait, mais c'est que c'est pas le moment. C'est peut-être pas bon pour nous, pas bon pour notre vie, donc il nous le donnera pas parce que c'est un bon père. Et puis c'est peut-être quelque chose qui va pas nous aider maintenant. Les disciples, moi je les trouve... Je trouve franchement qu'il y a 12 héros dans 12 héros, parce que je trouve franchement qu'ils ont du cran. Quand Jésus leur dit « Suivez-moi », ils disent « Ouais, on te suit », ils montent dans la barque. Et si, à mon avis, on leur avait dit « Le programme, c'est tempête sur la mer », je crois qu'ils ne seraient pas montés. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Ils passent du temps avec le Seigneur. Ils disent à peu près 3 ans, enfin, les historiens. auprès de 3 ans, pour connaître Jésus, pour voir comment il réagit. Comment il réagit à la femme adultère, comment il réagit avec les enfants, comment il réagit avec les scribes, avec les pharisiens, comment il réagit avec Zachée, comment il réagit avec ces gens qui ont des besoins différents, qui ont une approche différente du salut. Et ils montent dans la barque et ils ne connaissent pas encore le Seigneur quand ils font ça. Et ils ont peur parce que la tempête se lève. Jésus, il dort. Et ils lui disent, mais tu ne te soucies pas que nous mourions, que nous périssions? Et là, Jésus se lève, il calme la tempête. Et là, les gars, ils sont dans l'étonnement. Ils se disent, purée, mais c'est qui, avec qui on a embarqué, quoi? Donc là, ils parlent au vent, à la tempête, à la mer, et tout ça, ça se calme. Je pense que si Jésus leur avait dit, vous inquiétez pas, votre vie pendant 3 ans, ça va être miracle sur miracle, Spielberg à côté... Et je pense qu'ils auraient réfléchi à 2 fois. Je crois que je dois aller enterrer mon père. Jésus nous demande de le suivre. Et quand ils sont montés dans cette barque, c'est comme si qu'ils avaient attaché leur vie au roc solide. Et c'est comme si qu'après la tempête, on aurait pu leur faire n'importe quoi. Ils seraient restés attachés à Jésus. Un conseiller qui a les paroles de la vie. Dans Matthieu et Luc 4:4, j'espère que là j'ai raison, Jésus répond, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Alors là, les gars, ils se disent, « Ouais, mais tu vois, il faut quand même qu'on mange, c'est important. » De toute parole de Dieu. Moi, je pense que quand Jésus répond ça au diable, qui dit qu'en fait, l'homme, il ne vivra pas que des choses matérielles, il vivra des choses spirituelles. Et quand il dit de toute parole de Dieu, ça veut dire que à cet instant précis, dans ta vie, ton besoin, Dieu, il peut te donner la parole qui va nourrir cette faim, qui va réparer la brèche, qui va rassurer ton cœur. Et je pense que quand bien même nous avons fait des expériences avec Dieu, nos contemporains ont besoin de faire cette expérience avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est un divin conseiller qui a la parole de vie. Parce que quand nous allons aller voir ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si nous savons ce que Dieu veut qu'ils reçoivent, ils vont recevoir la vie. Ils vont recevoir la vie, tout de suite. La vie. Dans Jean 6, verset 66, j'espère que j'ai raison, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, vous voulez partir aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Nous semons, d'autres arrosent, d'autres vont récolter. C'est un travail d'équipe. Et je pense que le défi, il est au-delà de notre église. J'espère que dans Paris, d'autres églises vont se lever et vont semer. Et nous, on va peut-être passer et on va arroser. Et d'autres vont arriver et vont récolter. Parce que c'est un travail qui doit dépasser juste notre église. Je ne sais pas combien on est là ce matin, mais je vous garantis qu'on va s'épuiser si nous croyons que nous sommes, nous seuls, la solution pour ces gens qui sont dehors. Nous avons besoin de voir un projet plus grand. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire des cultes en commun, des méga church, etc. Mais il faut qu'on ait cette pensée de Dieu. Quand Dieu demande à l'Église d'être unie, il le dit à nous, il nous le dit à l'Église là-bas, il dit là-bas, là-bas, là-bas. Quand il dit « Allez-y, faites des nations des disciples », il nous parle à nous, il parle à toutes les églises. Et si nous pensons comme ça en disant « Seigneur, voilà, je sors, je vais semer. Quelqu'un d'autre va venir arroser, quelqu'un d'autre va venir récolter. » Mais c'est une œuvre commune qu'on fait ensemble parce que nous annonçons la vie. Et là, nous allons voir des choses. Nous allons voir, c'est comme si on a des nouvelles lunettes et on voit de la manière de Dieu. C'est pas juste nous, là, on sort telle date et voilà, c'est fini. Il y a des gens qui vont les nourrir, il y a des gens qui vont les couvrir, il y a des gens qui vont leur parler. Par exemple, les Syriens, ils parlent arabe, moi je parle pas arabe, ça va être difficile. Mais il y a des personnes qui se lèvent et qui veulent venir leur parler de Dieu. Il y a des personnes qui se lèvent pour les nourrir. Et autant des chrétiens que la mairie et les autorités le font. Donc nous devons rentrer dans ce wagon, dans ce train, être un petit maillon. Et nous voulons le faire en sachant que Dieu nous conseille et ce que nous allons faire, ça va être efficace. Une fois, on avait fait, à l'époque, je dis à l'époque parce que je suis vieille, ça se voit pas, mais on faisait de l'évangélisation avec des jeunes et on avait pris toutes les bouches de métro de Paris. Et on était deux à chaque fois, on distribuait des tracts, on parlait de Dieu, on donnait des bibles, etc. Et il y avait deux filles musulmanes qui sont venues nous voir, qui un peu nous ont agressées en disant « Mais comment ça se fait que vous êtes heureuses ? D'où vient cette joie ?» Et on leur a dit « Ben, on est dans la joie parce qu'on est sauvés, on a ce salut en nous. » Et elles étaient désespérées parce qu'elles ne savaient pas où elles allaient passer leur éternité. Une fois encore, j'étais dans un quick et avec ma sœur, on va manger. Et puis elle me dit « Ouais, on va manger, mais on passe un temps toutes les deux, blablabla. » Et puis là, il y a un gars qui arrive, qui se met derrière nous dans la file d'attente. Et puis, il commence à taper la discute. Et puis, moi, dans ma tête, c'est « Non, on mange toutes les deux. » Et ma sœur, elle fait « Ouais, vous voulez manger avec nous ?» Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc, elle invite le gars, il mange avec nous. Et puis, elle me dit « Oui, alors voilà, tu t'appelles comment ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Blablabla. Elle lui dit « Ben, nous, on sort de l'église, voilà, on voudrait discuter avec toi. » Et puis, ma sœur, elle est chanteuse, elle va te chanter une chanson. Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Ouais, ouais. » Je dis « Ok, bon, ben, Seigneur, c'est maintenant ou jamais. » Et là, j'ai chanté une chanson. La chanson, c'était « Jésus sauve ». Le gars, il a rien dit. C'est pas pour dire, mais des fois, les Antillais, là, voilà, y a rien qui sort, là, de marre, j'en fais rire. Le gars, il dit rien. Il fait comme ça. Ok. Et puis voilà, on finit de manger, puis on s'en va. Puis nous, on dit, attends, le gars s'appelle comme ça, tous les jours, on prie pour lui, il faut qu'il se convertisse, qu'il vienne au Seigneur, blablabla. Et je sais pas si vous connaissez la probabilité qu'on retombe sur lui. Mais un jour, on monte dans un métro, et là, le gars, il est en face de nous, il nous reconnaît. Et il nous dit, ouais, je vais à telle église, je vais me faire baptiser, merci pour ce que vous avez fait, etc. Donc vous voyez, ça se prouve, moi je suis arrivée, c'était peut-être la cinquième personne qui lui parlait de Dieu, hein, et encore j'ai chanté, et j'avais très peu de conviction. Mais semons, arrosons, prions, récoltons. Quel que soit le moment, la manière, nous avons un divin conseiller qui sait comment affûter sa parole, qui nous donnera cette force pour nos actes et l'endurance dans la prière et la foi pour apporter de façon précise ce qu'il faut à nos contemporains. Notre obéissance à Dieu n'est pas seulement pour prouver son amour, pour prouver sa sagesse, ou prouver. On n'a pas besoin de justifier Dieu. Des fois, quand on parle aux gens, on veut se justifier. On veut dire « Attends, moi, je suis chrétien parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai choisi ci, j'ai choisi ça. » Dieu, il n'a pas besoin de se justifier. Dieu, il a besoin que sa parole soit annoncée. Il a besoin que nos vies reflètent sa volonté. Et des fois, on ne va même pas comprendre. Les gens vont nous courir après. « Et toi, là ?» Une fois comme ça, ça m'est arrivé. On était en cours d'archi et... Je pose mes affaires sur la table, le gars à côté de moi, je le connais pas, premier cours et tout. Il prend mon agenda, commence à l'ouvrir, commence à lire. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je sais pas, je suis attirée. Je dis, ok, t'es attirée. Bon, ben voilà, moi je suis chrétienne, ce que tu vois, c'est Jésus. Et je pense que tu as besoin de lui, je vais te donner une Bible, etc. Vous voyez ? Un agenda sur une table. Je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes vous aussi. Et je pense que nous avons besoin d'entendre les uns des autres nos difficultés à parler de Dieu, nos témoignages, nos victoires, j'allais dire nos petites victoires, mais nos victoires quand on voit des personnes s'approcher de Dieu. Et ça, on ne peut pas que le faire en étant assis face à quelqu'un qui parle. Donc je vous invite à vous mettre en petit groupe, maintenant, now. On va se mettre en petit groupe de 4, mettez-vous en petit groupe en rangée, et que vous puissiez partager vos difficultés, partagez vos... Voilà, j'ai un collègue, j'aimerais lui parler de Dieu, mais je ne sais pas. Des fois, il faut juste exprimer nos difficultés pour trouver la réponse. Et si on est une église en action, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et je vous invite à le faire. Bon, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va le faire maintenant. Alors, je voudrais juste clôturer ce petit moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec les personnes avec qui vous avez partagé. Moi, j'ai été entourée avec des personnes de qualité. Et je voudrais vous apporter ce petit témoignage. Enfin, c'est pas un petit témoignage, mais... Un petit garçon de à peine, je dirais, 2 ans. 2 ans avec des brouillettes, il doit être né en janvier. Dans sa crèche, il a été un témoignage. Et... En fait, je connais les parents, ils me disent oui, voilà, dans sa crèche, donc il prie, il parle de Jésus, blablabla. Bla, bla, bla. J'aime bien dire blablabla. Bla, bla, bla. Et je dis, oh, c'est génial et tout. Et un jour, je suis invitée à un mariage. Bon, je suis le témoin d'un mariage. Et le marié me dit, tiens, j'ai 2 personnes à mettre dans ta voiture. Est-ce que tu veux bien un tel et un tel? Je lui dis, ok, je connais pas, mais j'embarque. Et la personne s'assoit à côté de moi. Et je lui dis, ah, mais on a de la route à faire. Ce serait bien que tu me racontes comment tu es arrivée à Dieu et tout. Et elle me dit, moi, c'est assez atypique. En fait, c'est un petit garçon dans ma crèche qui m'a parlé du Seigneur. Alors là, bon, j'étais déjà assise dans la voiture, mais je suis vraiment encore plus tombée. Je me dis, waouh, Seigneur, t'es trop fort. Parce que je connais ce petit garçon, je connais les parents, ils m'ont déjà raconté ton témoignage. Et elle me dit, je suis venue au Seigneur parce qu'un petit garçon dans ma crèche m'a parlé de Dieu. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Ce que vous semez dans le cœur de vos enfants, Dieu s'en occupe déjà, il fait fructifier. Et là, on parlait d'addition, de restaurant, d'être un témoin au KFC. Il y a des choses, des fois on se dit, je vais manger là, mais voilà. Et en fait, Dieu, il utilise tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, parce que notre vie, à partir du moment où elle est sauvée, eh bien, il ne veut pas qu'il y ait une seconde qui se perde en rien, quoi. Il veut fructifier tout ça. Donc, je vous encourage vraiment. Dieu s'inquiète de nous. Dieu s'occupe de nous. Et dans notre vie de tous les jours, il veut que tout moment soit effectif. Mais c'est par l'obéissance à sa voix, à l'obéissance à ce conseiller. Voilà. Je vous invite à prier juste. Seigneur, je te remercie parce que tu remplis notre vie de joie quand nous voyons des personnes venir à toi. Et nous savons que c'est dans l'éternité que nous semons. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Pour les gens qui nous entourent, nos voisins, nos amis, notre famille, nos enfants. Et puis pour l'inconnu, c'est ces gens qui sont aux portes de Paris, qui ne te connaissent pas. Ces gens qui sont réfugiés, Seigneur. Ces gens qui ne parlent même pas français, Seigneur. Nous savons que ton Saint-Esprit parle toutes les langues. Et il va toucher les cœurs, Seigneur. Je te remets cette église, je te remets... Ce fardeau que nous avons, je te prie que nous ayons conscience que obéir à ta voix, c'est pas un joug difficile, c'est vraiment un joug de joie parce que nous conduisons les gens au salut. Et je peux te remercier, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Que ton nom soit béni. Amen.
Amen.
Je vous laisse juste cette petite phrase. Le salut éternel d'autrui doit motiver notre cœur à l'obéissance. C'est ce qui a motivé Jésus à la croix. Soyez bénis, bonne journée.